21h à Bamako et à Gao et 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission par l'accaparement des terres au Sénégal. Un collectif d'ONG dénonce la mainmise d'une société sénégalo-italienne, Senuil, sur la réserve naturelle de Dial. Nous serons au Mali dans la seconde partie de l'émission.
Quelqu'un qui a 10 armes, on lui dit d'amener une arme pour être cantonné. Dans 10, tu donnes 1. Qu'est-ce que ça va t'en coûter? Ça ne t'écoute rien. La stratégie n'est pas bonne du tout.
Et nous serons plus précisément à Gao, où nous allons aborder le délicat sujet du cantonnement des groupes armés. Reportage de Boubacar Touré à suivre. Enfin, en page culture, rencontre avec le grand designer nigérien Alfadi, qui vient évoquer les 15 ans de son festival, le FIMA. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Jean-Roger Billon à ce microphone. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, un train de marchandises a déraillé ce matin. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes, en majorité des passagers qui étaient illégalement dans le train. L'accident s'est produit à 65 km de Kamina, dans le Katanga. La zone est marécageuse et difficile d'accès pour les secouristes. Jean Mouzadi, chef du bureau de poste à Katongola.
Le déraillement s'est effectué entre les tronçons Kassao vers Katongola. Donc c'est à peu près de 15 km de Katongola. Mais j'ai été sur place et après le déraillement, il y a eu déraillement. Donc il y a la loco qui s'est embourbée. La loco est dans le marin, même la cabouse. Il y a 12 wagons couchés, il y a 4 sur le rail. Ce que moi j'ai vu à mes propres yeux, c'était 31 morts. Et puis 55 blessés, ce que moi j'ai constaté. Quand on a demandé les gens qui étaient sur place, les passagers, ils disent que après ce qu'on sait, que c'est l'excès de vitesse.
Jean Mouzadi au micro de Nicolas Pinault. RCA, les militaires ougandais affirment avoir capturé Charles Okello, un commandant du groupe rebelle de Joseph Kony, et libéré 10 personnes, dont la plupart sont des enfants. Les troupes ougandaises mènent une mission soutenue par les Américains pour capturer Joseph Kony et d'autres membres de son groupe. Le chef de la LRA est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En Somalie, un deuxième député a été abattu en moins de 48 heures. Al-Shabaab n'a pas tardé à revendiquer l'assassinat d'Abdiaziz Isaac Moussal. Les insurgés islamistes affirment avoir tué le parlementaire par balle dans une embuscade ce mardi dans le district de Madina à Mogadiscio.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et le vice-président américain Joe Biden demande à la Russie de respecter le récent accord de Genève sur le règlement de la crise en Ukraine. Le vice-président américain a lancé son appel à Kiev en compagnie du premier ministre intérimaire Arseniy Yatsenyuk. Les précisions, Michel Joseph.
Pour M. Biden, la Russie doit cesser de parler et commencer à respecter ses engagements. Elle doit en particulier ne plus soutenir les forces séparatistes occupant des bâtiments gouvernementaux dans l'est de l'Ukraine. Les États-Unis sont pour une Ukraine une et indivisible et l'appuient dans cet effort, a déclaré M. Biden. Ainsi, 50 millions de dollars supplémentaires seront fournis à Kiev, dont 11 millions pour aider à financer l'élection présidentielle du 25 mai. Le premier ministre Yatsenyuk veut, lui, des investissements américains et européens dans le secteur énergétique. Cela permettrait à l'Ukraine de réduire sa dépendance envers le gaz naturel russe. M. Biden a promis l'assistance de son pays. Ici à Washington, la Maison-Blanche a annoncé ce mardi une aide militaire non létale de 8 millions de dollars à l'Ukraine, dont du matériel de communication et des véhicules.
Merci Michel. En Corée du Sud, le bilan du naufrage de Séoul a atteint 121 morts maintenant alors que les sauveteurs continuent de repêcher des corps du vaisseau. 17 corps ont été repêchés aujourd'hui. Selon les autorités, le bilan définitif pourrait atteindre environ 300 morts. Ce serait donc le pire accident d'un ferry en Corée du Sud en plus de 20 ans. Hommage aujourd'hui à la mémoire du grand écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez. Des milliers de gens, y compris de grandes dignités, ont célébré la vie du célèbre écrivain au Palais des Beaux-Arts de Mexico. Il est mort, vous le savez, jeudi au Mexique. À l'âge de 87 ans, Garcia Marquez a remporté le prix Nobel de littérature en 1982 pour son roman à succès, 100 ans de solitude. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Place maintenant à la suite de Sahel+.
retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons l'émission par le Sénégal où un collectif d'ONG dénonce l'accaparement des terres d'une société sénégalo-italienne, Senuilessa, sur la réserve naturelle de Ndiael. Senuilessa s'est vu accorder 20 000 hectares de la réserve par l'État sénégalais sous l'administration de l'ex-président Abdoulaye Wade. Les habitants de 37 villages contestent le projet, disant qu'il les prive d'accès à leur pâturage et aux sources de nourriture, d'eau et de bois de chauffage. On revient sur la controverse avec Frédéric Mousseau de l'Institut Auckland, l'une des ONG qui proteste contre ce projet.
De ce qu'on a appris récemment, l'entreprise continue de mettre en œuvre ce projet. Suite à la communication des ONG, mais aussi des communautés locales qui s'opposent très clairement au projet, l'entreprise a développé toute une panoplie d'informations disant que les officiels locaux ont signé des documents, disant que les communautés locales soutiennent le projet. Donc on a en fait un contre-feu allumé par l'entreprise et quelques officiels locaux pour faire croire que ce projet retrouve l'agrément des populations locales, alors que c'est faux, et on continue de lutter contre cet accaparement de terres, de 20 000 hectares de terres au Sénégal.
Ce problème au Sénégal avec la société Senuil, on l'a déjà vu au Cameroun avec la société Héraclès. On le voit à travers tout l'ensemble du continent. Mais les pays concernés ont quand même des cadastres. Qu'est-ce qui est arrivé à ces cadastres? On devrait quand même connaître à qui revient la propriété de ces terres.
Tous les pays n'ont pas des cadastres tels qu'on les connaît dans les pays occidentaux. Dans le cas de Senuil, c'est une histoire assez intéressante puisqu'en fait, le projet a été au départ donné par le précédent président qui a offert 20 000 hectares à cette entreprise et l'a offert au départ dans un autre endroit, à Fanaï, sur des terres villageoises. Et là, on a eu, c'était il y a 3 ans, on a eu déjà une forte opposition avec plusieurs blessés et même des morts lors de manifestations contre le projet. Et suite à ces événements, le président a délocalisé le projet, donc a trouvé 20 000 hectares ailleurs pour satisfaire cette entreprise. Et cette fois-ci, il pensait avoir trouvé l'endroit idéal puisqu'il s'agissait d'une réserve naturelle. Donc sous contrôle de l'État et sur lesquels les populations locales n'avaient pas de titre officiel. Mais ceci étant dit, ce qui se passe avec cette réserve, c'est que c'est une réserve qui depuis plusieurs décennies a été donnée à des populations d'éleveurs qui effectivement ne cultivent pas les terres mais les utilisent et c'est une utilisation vitale pour leur subsistance en termes de pâturage, d'accès à l'eau, d'accès au bois, d'accès à toutes sortes de nourriture et de produits de cette réserve. Et aujourd'hui, en donnant ces terres à cette entreprise, on n'utilise pas des terres qui sont sous titre de propriété de villageois, mais on utilise bien les terres dont dépendent plus de 9000 personnes dans plus de 30 villages qui vivent sur ces terres.
Frédéric Mousseau, de l'Institut Auckland, l'une des ONG qui proteste contre le projet Senuilessa. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 90.1 FM à Kaolack au Sénégal, sur la radio Al-Faïda. Nous sommes donc au Mali pour notre dossier, et plus précisément à Gao, où nous allons évoquer le cantonnement des groupes armés. Un cantonnement qui a encore du mal à être accepté, notamment par la jeunesse. Reportage à Gao de notre correspondant Boubacar Touré.
Les autorités du Mali et les partenaires dans la résolution de la crise envisagent le cantonnement des groupes armés. Pour mieux comprendre le système du cantonnement, nous avons approché Mohamed Meïga, un responsable du groupe d'autodéfense Gandakoï. Le contact avec les responsables des autres groupes armés étant difficile actuellement. Il nous explique les conditions à remplir pour le futur cantonnement.
Le cantonnement, c'est pour, en réalité, pour parler de paix, il faut épurer l'espace, c'est-à-dire enlever toutes les armes dans l'espace où il y a le conflit, que ce soit les armes eux-mêmes, que ce soit les munitions, que ce soit les explosifs. C'est pourquoi les conditions du cantonnement, celui qui peut amener un certain nombre de cartouches, 250 cartouches, il me semble, tu peux être cantonné. Si tu peux amener deux grenades, tu peux être cantonné. Si tu amènes aussi ton arme avec laquelle tu as combattu, tu peux être cantonné.
Qui sont en réalité concernés par ce cantonnement dont on parle beaucoup dans la cité de Saskia?
Ceux qui ont les armes, ce sont ceux-ci-là qui vont être cantonnés. Les groupes armés qui sont concernés, c'est tous les mouvements. Le MNELA, HCIA, MAA, le Gandakoy, le Gandaizo, Gandalasadizo, FLN, tous nos groupes armés-là. Ils doivent être cantonnés pour qu'on retire les armes.
Si jusque-là, aucune disposition n'est encore prise par rapport à cette activité de désarmement, le sujet nourrit les débats dans les grains et dans les familles. Les jeunes qui sont les plus intéressés rejettent les conditions posées. Ibrahim Touré est un leader de jeunes dans le quartier d'Aljanabanja. Il semble être dépassé par cette information.
Quand on me demande, moi personnellement, d'aller amener des armes que je ne possède pas, on m'insulte. C'est pour me pousser à aller voler ou bien aller chercher, acheter. Et en tant que pauvre, je n'en ai pas. Parce que quand on est pour la paix, mais on ne peut pas demander aux gens qui n'ont pas des armes d'aller chercher des armes pour être cantonné. C'est ce que moi je déplore. Et alors ça ne répond pas à la question et ça ne nous ramène pas vers la paix.
Yacouba Oumar Cissé est un jeune patriote de Djoulabougou. Il est de ceux-là même qui ont opposé une résistance farouche aux groupes armés qui avaient occupé la ville. Pour lui, les conditions posées pour le cantonnement ouvrent les portes à une nouvelle forme de commerce.
Cantonnement. En 2002, c'est la même chose. Chaque personne devrait avoir une arme pour être cantonnée. Ou bien des munitions, ou bien des grenades. Ces armes-là ne sont pas disponibles. Qui sont les détenteurs des armes? C'est les militaires. Les militaires sont là, c'est leur marché qui commence maintenant. Une arme, tu l'achètes à 250 000 pour venir te cantonner. Et si on ne me prend pas? C'est ça le problème. Quelqu'un qui a 10 armes, on lui dit d'amener une arme pour être cantonné. Dans 10, tu donnes 1. Qu'est-ce que ça va t'en coûter? Ça ne te coûte rien. La stratégie n'est pas bonne du tout. On aime notre pays. Notre devise, c'est ça qui est notre force. Mais ce pays, il est temps qu'il arrête avec ça.
Mohamed Dedo Elfa est un enseignant contractuel à Inekar dans le cercle de Menaka, à quelques 317 km de Gao. Son contrat résilié, puisqu'il ne compte plus y retourner, vice-président du conseil communal des jeunes de son état, pour lui, toutes les régions doivent avoir le même quota par rapport au cantonnement.
J'ai dit, si on demande tout de suite à Gao Ville de donner des armes pour pouvoir être cantonné, 10 personnes ne seront pas cantonnées. Mais par contre, si on dit à Kidal, bon, amener des armes pour être cantonné, tout Kidal serait cantonné. Nous, nos armes, on a déjà rendu nos armes aux militaires. Quand ils sont venus, on leur a donné ce que nous avons. Les munitions, les cartouches, les grenades, les armes que nous avons, on a donné les armes comme on appelle à l'armée. Et qu'est-ce qu'ils vont demander encore? Nous voulons construire la paix. Le même nombre qu'ils vont prendre à Kidal, c'est ce même nombre-là qu'ils vont prendre à Gao, sinon plus. Et nous serons cantonnés avec des pierres, avec des cailloux, avec des boîtes de peinture, hein, et avec des pneus. Parce que nous, on ne va pas acheter les armes. On n'a pas les moyens de les acheter. Et nous serons cantonnés, parce que nous avons compris.
Que doit faire l'État malien pour ne pas fâcher davantage des jeunes désœuvrés qui aspirent à une bonne vie dans un nouveau Mali qui se dessine? Maman Mega, un responsable du mouvement d'autodéfense Gandakoy.
Mais ces jeunes-là, c'est des potentiels porteurs d'armes aussi. Donc si l'État veut vraiment qu'il y ait la paix définitive, il faut qu'on trouve quelque chose, une situation à ces jeunes-là qui n'ont pas d'armes, mais qui sont restés chez eux, qui ont soutenu chez eux, même si c'est avec des bâtons. L'État doit chercher la solution à ça. Un État responsable, quand tu veux éradiquer la chose, et ceux qui ont les armes, et ceux qui sont potentiellement aptes à prendre les armes, tu les enlèves tous de la circulation, parce qu'ils sont tous à peu près les mêmes. Donc, au lieu de revenir traiter notre problème, vaut mieux traiter le problème globalement.
En tout cas, si le Premier ministre Oumar Tamtam Lee a rendu sa démission pour des raisons que nous ignorons encore, il est certain que le tout nouveau Premier ministre Moussa Mara et son gouvernement mis en place n'auront pas la tâche facile, tant les défis sont nombreux et variés. Gao Boubacar Touré pour Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 101.7 FM à Gao, sur la radio Ahadar Kohima. Une page culture dédiée au magicien du désert, le styliste nigérien Alfadi. De passage à Washington, il nous a accordé une interview exclusive. Au micro de Fernand Fuzing, il revient sur les 15 ans de son festival, le FIMA, le Festival de la Mode Africaine.
On vient de finir la 9e édition, on part sur la 10e édition l'année prochaine. Donc c'est un pari réussi, parce que c'est un pari qui a fait comprendre l'intérêt de la création au monde culturel africain et au monde politique africain. Donc pour moi, le FIMA a été un pari réussi qui a été encouragé et utilisé par le monde entier du continent africain, le monde d'ailleurs.
Un FIMA qui a été basé sur le thème, je rappelle, paix, culture et développement, mais surtout dédié à Nelson Mandela. Quelle est la particularité de cette 9e édition?
La particularité, c'est pour la paix. Nous voulons démontrer que sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de travail. Sans paix, il n'y a pas d'unité. C'est pour ça que la paix a été le milieu, a été la source de cette édition pour amener l'Afrique à sa dimension réelle, parce que nous quittons le problème du Mali.
J'en venais justement.
Nous venons complètement au Niger pour donner une dignité réellement à ce que le Mali a été. On a contribué, moi j'ai contribué réellement avec le téléthon que j'ai organisé au Niger pour réellement récolter des fonds pour les réfugiés maliens. On a voulu démontrer que le Niger et le Mali, c'est le même pays. Et nous, on a voulu démontrer aussi que l'Afrique doit se combattre, se donner une chance, doit être ensemble. Les Africains doivent amener une image positive entre eux pour aider leurs frères qui ont des problèmes par rapport à une image négative de ce qui s'est passé dans nos pays-là. Et je suis certain que les politiciens ont été à nos côtés. Ils ont compris l'intérêt, mais ils ne sont pas tellement motivés. Il faut que cette motivation soit encore et encore et encore et encore.
Salfadi, on parle surtout de ce concours des jeunes créateurs qui fait une spécificité du FIMA. Est-ce qu'on peut noter de l'innovation après 15 ans d'existence?
Oui, parce qu'en fin de compte, l'innovation est que ce concours était uniquement de concours de jeunes stylistes. Nous lançons un appel d'offres, un appel de candidature sur les 50 pays africains. Et nous réussissons à avoir au moins 200 jeunes stylistes. Sur les 200, au Louvre à Paris, on fait l'ouverture avec des grands membres du jury, des jurys hors normes, des jurys vraiment des grands créateurs français, américains, africains qui viennent, vous avez parlé tout à l'heure de Iman Aissi, qui était l'année passée membre du jury à ce concours-là pour choisir sur les 200 jeunes stylistes les 10 meilleurs.
Nous retrouverons demain la suite de cet entretien avec le styliste nigérien El Fadi. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Alfredo Santos. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Kadi Diarra du Faso et son tube Djiguya. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.